Les matins de France Culture.
La revue de presse internationale, Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Guillaume.
Ce matin, l'art de la guerre.
Oui, avec ce titre, La prochaine guerre, à la une de son dernier numéro, l'hebdomadaire britannique The Economist entendait se demander cette semaine à quoi ressembleront les guerres du futur, les nouvelles armes conventionnelles, les cyberattaques, les avancées dans le domaine de l'intelligence artificielle et l'avènement aujourd'hui de robots tueurs. Bref, tout ce qui risque de bouleverser la façon dont les guerres seront conduites à l'avenir. Et pourtant, ce matin, c'est bien l'art de la guerre dans tout ce qu'il a de plus tristement banal qui transparaît à la une de l'actualité. En Afghanistan, tout d'abord, moins de 48 heures après l'explosion à la voiture piégée à Kaboul qui a fait au moins 103 morts et 235 blessés samedi. Une nouvelle attaque a eu lieu dès l'aube contre l'académie militaire, rapporte la BBC. Attaque revendiquée par l'organisation État islamique. Coup de feu, explosion. Un premier bilan fait état de 2 morts et une dizaine de blessés parmi les soldats. Quoi qu'il en soit, plus de 3 ans après que le président Barack Obama a officiellement déclaré la fin de la guerre américaine en Afghanistan, rappelle The Guardian, cette attaque, la quatrième en une semaine, témoigne donc de ce que la capacité d'action des insurgés islamistes demeure aujourd'hui intacte. La plus longue guerre de l'Amérique ne disparaîtra pas, tranche pour sa part le journal des Émirats, The National. Il n'y a actuellement aucune perspective réaliste, dit-il, de mettre fin à cette guerre, d'autant qu'avec cette nouvelle revendication, Daesh apporte là un sérieux démenti à tous ceux qui voudraient nous faire croire qu'en Syrie comme en Irak, les insurgés ont été vaincus. Au contraire, rien ne semble pouvoir dissuader ceux qui sont prêts à mourir pour leur cause, quel que soit le lieu de rejoindre l'organisation État islamique. Dans son éditorial, The Afghanistan Times pointe lui du doigt la responsabilité de Washington après que le gouvernement américain a critiqué son voisin pakistanais pour son rôle de protecteur des talibans. Une hypothèse également avancée par The New York Times depuis que Donald Trump a décidé début janvier de faire pression sur le Pakistan en suspendant l'aide sécuritaire fournie à Islamabad. Beaucoup redoutaient une flambée de violence en représailles. C'est chose faite.
L'art de la guerre toujours et encore, mais cette fois-ci sans le fracas des armes automatiques.
Oui, en bon stratège politique, Nicolas Maduro a-t-il lu l'art de la guerre? C'est du moins ce que laisse entendre sa décision d'organiser une élection présidentielle d'ici au mois d'avril. Les Vénézuéliens se rendront ainsi aux urnes dans moins de 100 jours. Sauf que les partis opposés au régime se retrouvent désormais totalement désarmés, note le média en ligne Al Navio, repéré par le Courrier International. Non seulement ils doivent en toute hâte s'enregistrer pour le scrutin, tout en élaborant leur stratégie de campagne, étant entendu qu'ils n'ont pas de candidat à la présidence et que le chef de l'État leur a même interdit de présenter un candidat unique. Sans compter que Maduro, lui, va recourir à l'un des outils qui ont le mieux réussi au chavisme pendant ses presque 20 ans d'existence, le nationalisme. Chez le voisin colombien, cette fois-ci, là, la campagne pour les élections législatives et présidentielles a ressuscité les pires fantômes de l'histoire sanglante du pays, écrit Les Spectateurs, tandis que samedi, le parti de l'ancienne guérilla des FARC lançait sa première campagne électorale après 53 ans de guerre civile. Une série d'attaques à l'explosif contre des policiers ce week-end allait faire 7 morts et des dizaines de blessés, attaques revendiquées par les dissidents guerrieros de l'ELN. Et à la lumière des faits, les hypothèses qui laissent désormais entrevoir un déploiement massif des forces armées dans le pays ne semblent pas totalement insensées. Tout porte à croire que l'ELN chercherait en effet à amener le gouvernement à déclarer l'état d'urgence, manière d'affecter profondément le processus électoral ou de l'utilisation de la tragédie comme marchandise politique. Alors évidemment, ce n'est pas nouveau, rappelle toujours le journal, partant de ce postulat que toute peur est politique parce que son intérêt réside dans la domination. Elle s'impose malheureusement et inévitablement comme un facteur déterminant de la vie à la fois sociale et politique.
Et direction l'Égypte à présent, où à 2 mois des élections, la preuve est faite que personne n'est en mesure de s'opposer au maréchal président Al-Sisi.
Oui, pourtant la campagne aurait pu être intéressante avec une demi-douzaine de candidats susceptibles de remettre en cause, en question, la dérive autoritaire du président et sa mainmise sur le pays. Sauf que l'un après l'autre, les rivaux potentiels ont tous été contraints de renoncer à mesure que s'approchait le délai pour déposer leur dossier de candidature, nous apprend le temps. Parmi la liste des candidats incapables de se présenter, on trouve notamment un avocat, célèbre défenseur des droits de l'homme, également le neveu de l'ex-président Anwar al-Sadat, mais le cas de Sami Anan est sans doute le plus révélateur du climat actuel. Cet ancien chef de l'état-major de l'armée à la retraite a été arrêté la semaine dernière et depuis personne ne sait où il se trouve, d'où ce commentaire d'un chercheur au Tahrir Institute for Middle East Policy, interrogé dans les colonnes du journal. Al-Sisi a démontré que même la simple perspective de 2 mois de débats contradictoires lui était insupportable. Le fait qu'il ait agi de manière si rapide et si radicale dit assez qu'il ne veut même pas s'embarrasser des apparences. En d'autres termes, dit-il, il a transformé tout l'exercice en pure démonstration de force.
Et décidément, ce matin, le schéma classique des dictatures semble se répéter partout.
Oui, dernier exemple en date en Russie, défiant Vladimir Poutine qui l'a exclu de la course présidentielle. Alexei Navalny a organisé hier une journée d'action nationale sous slogan « Grève des élections ». Environ 3000 de ses partisans se sont rassemblés dans le centre de Moscou. Quelques minutes à peine après avoir rejoint ses partisans, Navalny a été, lui, interpellé par une dizaine de policiers et emmené de force dans un fourgon aux vitres fumées, selon les images diffusées par ses partisans, de sorte que hier, écrit le correspondant du Globe and Mail, tout le monde a finalement joué son rôle dans ce scénario écrit à l'avance. Les manifestants ont défilé, Navalny a été arrêté. Le Kremlin, lui, continue à se préparer pour une élection dont tout le monde connaît déjà le résultat. Reste toutefois un espoir, la jeunesse russe, selon une étude récente de l'Académie des sciences, pourtant soutenue par l'État. 51% des Russes interrogés et 62% des moins de 30 ans considèrent aujourd'hui que les réformes sont plus importantes que la stabilité. Or, c'est la première fois en 15 ans qu'une majorité semble prête à choisir donc le changement plutôt que la continuité. Le rédacteur en chef du journal d'opposition The New Times d'insister, Poutine est au pouvoir depuis trop longtemps, écrit-il, et il est temps pour lui de partir.
Merci beaucoup Thomas Cluzel.